Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Campus Tour 99.5. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mohamed qui est directeur artistique chez Gavroche Bleu Théâtre. Comment ça va ?
Ça va très bien, très bien, merci.
Toujours commencer par les formalités.
Oui, toujours, ben c'est normal.
Alors aujourd'hui, tu viens nous présenter, enfin je t'ai demandé de venir pour nous présenter ta troupe de théâtre, du coup si je peux l'appeler comme ça. Oui. Elle a été créée il y a combien de temps ?
Donc elle a été créée il y a maintenant, c'était en 2006, voilà, oui, 2006, oui, voilà. Et puis j'ai créé aussi une autre compagnie qui s'appelle Optimum, qui a été créée donc en 95, tout à fait, oui. Voilà, tout à fait.
Et du coup, c'est quoi la différence entre les deux ?
Alors, il y a une troupe qui est plus pour les enfants, hein, Optimum, et Gavroche Théâtre plus pour les adultes, voilà.
D'accord.
C'est la différence.
Du coup, sur Gavroche Théâtre, vous avez une structure physique ou pas ?
Qui ? Quoi ?
Sur Gavroche Théâtre, vous avez une structure physique ? Ah, tu m'entends mal. problème du direct, problème de casque, là tu m'entends mieux ?
Ouais.
C'est
très bien,
on y retourne.
C'est parfait.
Alors du coup, sur Gavroche Théâtre, est-ce que vous avez une structure physique qui vous accueille et qui accueille du coup la structure pour faire des résidences, pour travailler les...
C'est-à-dire que à Gavroche Théâtre, c'est une troupe donc indépendante. Et donc on a un lieu qui se trouve à La Riche, au 49 rue du Grand Carrois, et donc on a une salle qui nous appartient, c'est la chance que l'on a, où on fait nos créations et on fait aussi donc on fait venir du public dans cette salle. Et donc c'est une troupe complètement indépendante, et donc voilà, c'est moi qui fais les choix, en compagnie évidemment aussi des comédiens qui sont là, sur ce qu'on a envie de faire, sur ce qu'on a envie de proposer.
D'accord. Voilà. Vous êtes combien à travailler au sein de cette structure du coup ?
On est 6 personnes qui sont là, qui travaillent souvent avec nous. Puis après, évidemment, il y a beaucoup de monde qui tourne autour de Gavroche Théâtre.
Et du coup, de ce que j'en sais, vous accueillez aussi des publics pour des cours, des stages.
Voilà, des cours, des stages pour enfants, pour adultes. Et je travaille aussi à l'école de la deuxième chance. C'est plus pour, à travers le théâtre, travailler sur... on va dire, allez, je vais me lancer, je vais dire le mot réinsertion. Ouais, c'est une forme de réinsertion, c'est-à-dire essayer de retrouver du travail par le biais de l'école de la deuxième chance. Voilà.
Et du coup, est-ce que tu dirais que le Gavroche Théâtre a une dimension sociale aussi ?
Sociale, oui, sociale, et puis universelle surtout. Donc à la compagnie, nous, en fin de compte, c'est composé de personnes qui viennent de tout horizon, de tout pays. Voilà. Si une personne est handicapée, pour nous, c'est pas un problème. Voilà. Donc c'est intéressant. Les âges, c'est pareil. Ça part de jeunes qui ont 18, 19 ans. On a eu même un jeune de 15 ans qui est venu nous rejoindre dans la compagnie. D'accord. Jusqu'à des personnes qui ont une soixantaine d'années. Donc c'est vraiment, c'est un mélange. Parce que j'ai envie, moi, la compagnie, de travailler d'une façon universelle. Surtout, de ne pas mettre par compartiment, quoi, les personnages avec les personnages, etc., etc. Donc c'est une volonté universelle.
Ouais. Tu travailles avec... des personnes qui sont professionnelles du théâtre ou des amateurs ou...
C'est un mélange de professionnels et d'amateurs. Moi, d'accord. Pour moi, en fin de compte, je suis pas dans la dualité entre professionnel ou amateur. Ce que je veux, ce que j'ai envie de faire, ce sont que les personnes qui viennent travailler avec nous sur des sujets, ça peut être contemporain ou sur des pièces classiques, soient passionnées, voilà, par l'œuvre qui est proposée. Après, professionnel, amateur. Je suis pas dans cette dualité là, en fin de compte, parce qu'il y a souvent une dualité professionnelle amateur. Enfin, je crois qu'on peut trouver une solution même avec des amateurs et des professionnels. On peut travailler ensemble, comme de jouer aussi avec des enfants.
Oui.
Pas suffisamment humble pour jouer avec les enfants aussi. Et il est possible aussi que des enfants jouent aussi dans les spectacles, ça nous est déjà arrivé aussi. C'est même pas une histoire de d'être humble, c'est par rapport à l'enfant. Il y a des enfants qui jouent vraiment très très bien, ils jouent à merveille. Et en fin de compte, le théâtre, c'est pas du sport, en fin de compte. C'est pas du sport. C'est pas du sport. Sûr. Ça n'a rien à voir. Non.
Et toi, tu as commencé en tant qu'acteur ou pas du tout?
Comment je suis rentré dans une troupe, d'ailleurs, au Petit Théâtre de Lormandreau. J'ai travaillé aussi avec le Charivari Théâtre pendant pas mal d'années en tant qu'amateur. Puis avec le temps, je suis devenu professionnel. Et donc, c'est là où j'ai appris, surtout le théâtre classique. J'ai travaillé notamment Shakespeare, Molière, Alfred de Musset. Et que j'ai aimé travailler, que j'ai travaillé avec passion, voilà. Et puis après, peu à peu, j'ai pris mon indépendance parce que, je pense que ce que je voulais, il fallait que je me le donne, voilà. Mmh. Alors, quand on arrive, il faut se donner, ce qu'on a envie, je pense.
Et apporter ta patte aussi, du coup, sur tout ce qui,
oui,
qu'est-ce que tu proposes en termes en termes de pièces, en termes de social, comme on disait aussi, parce que c'est pas le cas de toutes les troupes.
Puis après, on a une vision. Moi, je pense qu'on a tous, d'ailleurs, des visions. Et on a après, elle est à chacun de nous, bien sûr. Et je rêvais, en fin de compte, de faire ce que j'ai voulu faire, et j'y suis arrivé. Mmh. Et il faut se donner, en fin de compte, cette possibilité-là. Yes. Donc voilà.
Et ça, très belle transition sur Gavroche.
Ouais.
Gavroche, pourquoi Gavroche ?
À Gavroche, ah oui. Alors pourquoi Gavroche ? Parce que il y a aussi cette connotation avec la rue. Un Gavroche, pour moi, c'est la rue, c'est l'enfant aussi, devant les barricades. Moi, je me sens proche de Gavroche. Je suis un homme enfant ou un enfant homme, je sais pas, mais je me sens très très proche de lui. Je viens aussi de la rue, quoi. Je viens aussi, puis de grandes misères aussi, parce que je suis né après la guerre d'Algérie. Je suis né en 58. Donc il y a plein de choses comme ça qui me rapprochent de Gavroche Théâtre et de Victor Hugo notamment, de Jean Valjean aussi. Et puis après, ça pousse très très loin. On peut même le retrouver dans Une saison en enfer d'Arthur Rimbaud, bien sûr.
Et aujourd'hui, le Gavroche, il existe encore dans notre monde actuel
Bien sûr, oui, parce que si vous voulez, il y a des sujets qui sont contemporains, qu'on a abordés notamment sur la fin de vie, sur un spectacle qui s'appelle Sur un fil. Et ça reste vraiment d'actualité, Sur un fil. Il y a plein de situations contemporaines sur lesquelles on a travaillé. Et puis je pense que même ce qui est du temps passé a toujours une résonance au temps présent.
Ça forge l'instant.
Ceux qui veulent relire d'ailleurs Une saison d'enfer d'Arthur Rimbaud, relisez, vous verrez qu'il y a plein de choses qui résonnent encore de nos jours. Et c'est très puissant, c'est très fort. Donc le présent, oui, le présent rejoint le passé, et puis tout ça, c'est comme des sortes de miroirs, pour moi, c'est des miroirs. Et tout ce qui s'est passé, même pendant la guerre d'Algérie, et puis le fait d'arriver ici, et tout ce qu'on entend dans l'actualité, tout résonne, et tout est assez extraordinaire, et tout est très très fort, très très puissant.
Oui, bah oui. Ouais. C'est aussi, ça va aller avec le morceau du coup que là je vais passer, qui est de parler des choses pour qu'elles existent et qu'on les oublie pas, du coup. Et le morceau là que je choisis mes morceaux en fonction des invités, du coup là je te propose un morceau de La Canaille, je sais pas si tu connais, qui est un artiste de Saint-Denis, c'est un collectif, et il joue beaucoup sur les mots, et quand moi je l'ai vu en concert, et en concert il a demandé avant de commencer son concert si on comprenait ce qu'il disait au micro, et du coup voilà, ça m'a touché. Et du coup c'est un morceau qui s'appelle Le Silence, et on revient juste après ce morceau sur Radio Campus Tour.
C'est le son qui m'emporte quand je cherche l'asile, quand j'étouffe, quand j'ai le mal de la ville. C'est le seul qui m'apaise, le seul qui m'allège le temps d'une parenthèse. C'est celui qui me permet de méditer, un soupir, un moment de vérité. C'est l'écho de mes joies, de mes peines, le battement du pouls qui résonne dans mes veines. C'est le souffle de chacune de mes résolutions, c'est le calme intérieur de ma révolution. C'est le blanc qui pense, le vent de connivence. Mais où est passé le silence? Mais où est passé le silence? le bruit sans de mèche. Plus je l'entends, plus je sens qu'elle approche. Jamais tranquille, jamais paisible. Ma rue grouille jour et nuit, inaudible. Flot de DB, le vacarme s'épaissit. Indécis, je me débat dans une vie au débit. Sans ta page, je m'assourdis. Je m'abîme, il écrase le murmure de la voix qui m'anime le silence. C'est le miel qui s'arrache, un souvenir perdu dans le tumulte de nos ruches, le silence. C'est le cri du repos, il s'achète à prix fort au marché du répit. Mais où est passé le silence? 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 Et à celui que je déteste, le vieux silence que je fuis comme la peste. L'affreux silence qui accepte, qui consent, qui concède, qui jamais ne conteste. L'ombre qui se dérobe, rase les murs, qui se défile pour masquer ses blessures. Le silence prostré qui se renie, qui se dénigre et glisse dans le puits de l'oubli. Un silence dont personne ne témoigne, un silence que la faim nous empoigne. Il est en place pour ma graffe et la bouche. Celui-là je le brise, je le couche. Mais où est passé le silence? 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 Mais où est passé le silence?
Vous êtes toujours sur Radio Campus Tour 99.5 et nous venons d'écouter Le silence de la canaille de l'album La Nausée de 2014. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur, sur le spectacle que vous avez monté sur la fin de vie, cet artiste a écrit un morceau qui s'appelle Encore un petit peu. Voilà, je te donne ça, c'est vraiment intéressant comme approche. Qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que ça te parle? Ce morceau,
moi, ce que j'entends, c'est évidemment il y a ce silence et puis il y a aussi beaucoup de bruit pour rien, évidemment aussi de William Shakespeare, mais il y a aussi, c'est-à-dire que ce qui est extraordinaire pour tous ceux d'ailleurs qui ont migré, qui sont venus ici, parce que dans sa voix je l'entends ça, c'est cette force, c'est cette puissance de s'accaparer les mots. C'est cette volonté à vouloir en donner une telle vérité qui est vraiment qui est toujours vraiment c'est excellent. Et moi c'est ce que j'ai toujours aimé en France d'ailleurs parce que je suis venu ici, j'ai perdu ma langue, j'ai perdu mes mots, et j'en ai découvert d'autres. Et en fin de compte, c'est même pas, je pense, une question d'intégration, etc. Ça n'existait pas d'ailleurs à notre époque, le mot intégration. Je pense que c'est une histoire de quelque chose qui est beaucoup plus magique, qui est beaucoup plus féerique et mystérieux, en fin de compte, qui fait que pourquoi, en tant qu'être meurtri, en tant qu'être abandonné, en tant qu'être perdu, pourquoi on va à la rencontre de ces mots et pourquoi on les trouve aussi extraordinaires? Et c'est ça qui est absolument magnifique en France et qu'il ne faut pas oublier. Mmh. Et je pense qu'on est nombreux à être dans ce cas-là. On ne nous entend pas, mais on est bien présents. En fait.
Et est-ce que tu penses qu'à travers le théâtre, tu t'es recréé un langage, du coup?
Bien sûr. Absolument, oui. Parce que quand je travaille, par exemple, le Horla de Maupassant, quand ça commence, il parle... de ces délicates et fragiles, on va dire, il parle de ces racines, délicates racines qui, euh, qui tient un homme à la terre où son nez est mort, ses aïeux, qui l'attache à ce que l'on pense, à ce que l'on mange, à ce que, etc., etc. C'est vraiment fabuleux d'entendre Maupassant, qui est un Normand, et puis de parler d'enracinement, alors que nous, on est déracinés. Mais cet enracinement a une résonance. C'est très puissant, parce que et les mots qu'il emploie pour décrire cet enracinement, c'est vraiment très fort. Et pourquoi est-ce qu'on va vers ce texte-là, en fin de compte? Pourquoi? Parce que nous, on a envie aussi de s'enraciner. Et on veut découvrir cet enracinement, tout en sachant que nous ne sommes pas des arbres. Tout en sachant qu'on n'a pas de racines. Et qu'en fin de compte, nous sommes en mouvement. Et ça, pour moi, c'est important. Nous sommes toujours en mouvement. Nous sommes toujours déplacés depuis des siècles. Depuis le début de l'humanité, d'ailleurs, depuis que l'homme est sur Terre, on s'est toujours déplacé. Donc, oui, certains se sont enracinés, d'accord. Mais certains sont en mouvement aussi. Et il faut, je pense, qu'il y ait écoute entre cette histoire d'enracinement et aussi de se déplacer. On devrait se déplacer, d'ailleurs, plus facilement. Certains ont une carte d'identité, en fin de compte, ont un passeport qui leur ouvre toutes les portes, et d'autres, rien.
Oui, c'est sûr.
Absolument rien, c'est terrible.
Et du coup, à travers ce mouvement dont tu parles, et l'enracinement, au final, réussir à s'enraciner dans quelque chose qui n'est pas fixe, qui bouge tout le temps, pour revenir au théâtre, sur la scène, comment tu le conçois? Dans le sens où le mouvement, le silence, oui, justement, tout ça sur scène, oui, sur le plateau.
Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous êtes en train de dire, enfin, du moins ce que j'entends dans votre question, c'est l'enracinement, pour moi, c'est un lieu. Donc j'ai un lieu. J'ai un lieu que je me suis donné, et que d'ailleurs ma femme m'a aidé aussi à créer ce lieu. Et ce lieu s'est enraciné. C'est un lieu qui est là, quoi, qui est présent à la Riche. Mais dans ce lieu, tout est en mouvement. Et dans ce lieu, tout le monde se rencontre. Et dans ce lieu, il y a un mot que je mettrai, moi, et je pense qu'il faut qu'on l'entende, ce mot, c'est hospitalité. L'hospitalité, c'est accueillir l'autre. Peu importe ses différences, religieuses, culturelles, peu importe de d'où il vient. C'est cette hospitalité. Et je pense que moi, dans mon passé, si j'ai réussi à vivre sur cette terre, et puis en France, parce qu'on est là aussi, je suis en France, c'est parce que tout simplement, on m'a reçu dans un orphelinat. J'ai été accueilli dans un orphelinat. Et dans cet orphelinat, ils ont été d'une grande bonté envers moi, et on était tellement abîmés qu'on ne voulait pas nous abîmer plus. Mmh. Et cette hospitalité, qui même si elle vient de plus d'une sorte de volonté chrétienne, il faut qu'elle reste. C'est moi, Mohamed, qui le dit, oui. Oui, l'hospitalité chrétienne, bien sûr, elle a une valeur. C'est pas la peine non plus de dire, parce que c'est chrétien, on va la jeter. Et en fin de compte, c'est comme disait Arthur Rimbaud, entre le profane et le sacré, on peut rejoindre le profane et le sacré. C'est pas l'un à côté de l'autre, etc. On est tous, même à l'intérieur de nous-mêmes, on est toujours pris par des tourments intérieurs et qui sont complexes dans un être. Et après, évidemment, dans ce lieu qui se trouve donc à la Riche, oui, bien sûr, c'est un lieu d'accueil, ouais, d'hospitalité, ouais, en France, ouais, c'est possible encore.
Et du coup, maintenant que tu as justement que tu as pris ces racines, on va reprendre la métaphore.
Et les quatre racines. Oui.
Les quatre racines. comment dire? Est-ce que tu as réussi à t'imprégner d'une culture algérienne, du coup, si je ne me trompe pas?
Absolument pas, non.
Pas du tout, un théâtre algérien?
Non, absolument pas. Non, absolument pas. J'ai pas du tout. Non, c'est pas.
L'envie puis de regarder
je, non, je n'ai pas envie. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ce qui se passe ici, c'est tellement vaste, c'est tellement immense. Là où je me trouve. Parce qu'en en fin de compte, dans ce qui est même infiniment petit dans le lieu où je suis, ou même c'est vaste, j'ai pas besoin d'aller plus loin, tout est là. Et pour moi, il n'y a pas de petite ou de grande chose, tout est grand.
Mais ça, je pense que c'est aussi le théâtre qui fait ça,
enfin, oui,
dans le sens où les planches c'est sacré, enfin moi c'est ce qu'on m'a enseigné, les planches c'est sacré, et quand on rentre sur les planches on peut être qui on veut tant qu'on l'est à fond, sacré dans le sens.
Non, mais c'est-à-dire que la différence entre la vie où on joue, hein, où on joue, et on a aussi, il y a aussi une distribution d'étiquettes, malheureusement, alors qu'en fin de compte, et de rôles. Sur scène, moi, je peux comprendre qu'on distribue des rôles. Dans la vie, pour moi, c'est plus difficile. Mmh. Et puis après, il y a une seconde chose aussi qui est importante, c'est l'histoire de présence. Sur scène, on est présent à 100% et on est en communion pendant le temps du spectacle d'une façon absolument merveilleuse. Mmh. Le temps devient sacré. Chaque seconde qui s'écoule est assez extraordinaire. Et ça, c'est fabuleux. Donc cette histoire de présence à 100%, oui, on le retrouve d'ailleurs dans l'art. On aimerait l'avoir dans la vie de tous les jours. On aimerait, et oui. On essaye. On essaye d'être présent à tout ce que l'on voit, à tout ce que l'on, tout ce qu'on le découvre autour de soi. Bien sûr, on aimerait. Mais c'est... Je pense que plus on s'approche du théâtre, plus je pense qu'on est présent aussi dans la vie de tous les jours.
On prend le temps du coup de
bien sûr
regarder,
de regarder,
comprendre,
voilà, d'être là, d'être présent.
De ce que m'a appris le théâtre, moi, ça a été le fait de comprendre l'autre, parce que j'ai réussi à me dire, mais lui, il est comme, enfin, si quelqu'un écrit ça, c'est qu'il y a forcément quelqu'un qui s'est inspiré de quelque chose en fait, qui est présent.
Oui.
Et du coup, ben, je suis cette personne. Et du coup, je pense que par rapport à ce que tu dis, quand on est là dans le présent, hors du théâtre, et ben, tout de suite, il y a quelque chose de je vais écouter cette personne parce que ça se trouve un jour quelqu'un a écrit quelque chose sur elle et je vais être là pour l'écouter parce que un jour peut-être je vais me mettre à sa place pour le jouer et pour le comprendre en fait. Et je pense qu'il y a un truc comme ça.
Oui.
Coupe-moi si je dis des bêtises, hein, mais
je dis que ça fait partie de la culture française, ce que tu viens de dire, tu vois.
D'accord.
Moi ça résonne parce que il y a toujours ce fait de se pencher sur l'autre. Se pencher, c'est un héritage extraordinaire. Et être là aussi à la personne qui est en face de nous. Pourquoi ? Parce que c'est un être unique. Mmh. Même les tests ADN l'attestent. On est devant un être unique. Tout être que l'on rencontre est unique. Donc là, oui, on rentre dans le merveilleux et le fabuleux. Et la science l'atteste d'ailleurs. Mmh. Et tout l'atteste. Donc, quand on est face à un être, face à la vie, oui, on se doit, pour moi, on se doit de voir. Je n'ai pas été vu. Je n'ai pas été vu. Mm-hmm. Je veux voir. Voilà. Mm-hmm. Et pour moi, c'est difficile de ne pas voir les êtres qui sont autour de moi. Parce qu'en fin de compte, oui, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire, en fin de compte, les êtres qui ne sont pas vus, ou qui sont exclus, ou qui sont rejetés, etc., c'était moi, mm-hmm. il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, peut-être. Et en fin de compte, tout est une partie de nous qu'on veut, ou qu'on veuille ou pas le voir, en fin de compte. Mm-hmm. Tout est un miroir. Tout est une partie de nous, en fin de compte.
Ouais, complètement.
Et c'est ça qui est fabuleux et qui reste extraordinaire. Et je suis toujours émerveillé, oui, bien sûr.
Eh ben, encore une fois, très belle transition. Moi, je vais te proposer un autre morceau, du coup, là. Un morceau de Scylla. C'est un chanteur, rappeur belge. Il a sorti un album il y a 2 jours. Et du coup, voilà, j'ai récupéré un des morceaux de l'album. Un morceau qui s'appelle Écoutez-moi. Un morceau très théâtral. Pour le coup.
D'accord.
Et qui revient exactement sur ce que tu dis de mais là il y a plein de choses qui vont pas, mais moi j'ai rêvé de plus et moi je vais réussir à aller plus loin et à construire et à gravir les marches. Et justement la pochette de l'album, c'est des marches qui atteignent la lune. Enfin, voilà, du coup voilà, l'album s'appelle Pleine Lune. On revient tout de suite sur Radio Campus Tour 99.5.
Bien sûr, cette mélodie est belle. Le piano est fort, le piano est riche, le pianiste est mortel. Elle est convaincue qu'elle-même, que je vais lui apporter le monde. Elle lit sur mes lèvres des mots que je ne dis pas, passionné d'ombre. Ah, monsieur connaît bien le front, oui. Il gère une cyber armée. Pourquoi avoir les mains sales quand on peut faire la guerre depuis un clavier? Cette nuit la ville a sommeil, mais elle rêve trop fort. Toutes ces vaines promesses, ces manières de vivre ne peuvent plaire qu'au moins. Je sens ce bruit m'assommer, je vois tous ces gens rendre l'âme. Je tente de leur parler, ils secouent la tête mais ne m'entendent pas. Ils ne m'entendent pas. Comment tu veux qu'ils m'entendent de toute façon? Y'a trop de bruit. Écoute, écoute. Ils sont trop occupés à grignoter jalousement les quelques miettes qu'on leur a permis de manger. Écoute, regardez tous s'essouffler à courir après le vent, après leur soi-disant rêve, mais la coupe qu'ils veulent remplir est percée d'avance. Hé, hey, écoutez-moi. Tu dis que t'écoutes, mais t'écoutes pas. Ils m'écoutent pas, ils m'écoutent pas. Je dois faire quoi pour que tu m'écoutes? Hein? Je dois me faire sauter? Boum! Voilà. Monsieur est mieux disposé maintenant. Tu vas pouvoir accuser les autres. Espèce de trou du cul. Écoutez-moi. Moi aussi j'ai peur. Je suis seul ici. Y'a qui? Combien de temps encore on va jouer au brave chien-chien? Hein? À donner la patte au bon maître et à rapporter le bâton à des costards vides. Hmm? Qu'est-ce qu'ils connaissent de nous? T'en vois un qui veut notre bien, toi? Un seul? Hé, hey, je vous parle! C'est nous qui avons le pouvoir, pas eux! Combien de guerres il va encore falloir, putain de merde? Combien? J'en peux plus de consommer, moi. Je vais pourrir de l'intérieur, ça va me ressortir par tous les pores. Écoutez-moi, vous dormez, réveillez-vous. Combien de temps encore à subir, à apprendre à être normal, à vivre assis, à travailler, à dormir les yeux ouverts comme un bon fonctionnaire, et puis à rentrer, laisser les écrans penser à sa place, se faire promener par son chien, et puis aller dormir ses 8 heures par nuit, évidemment, parce qu'il faut apprendre à être en forme le lendemain, pour profiter de ce bon vieux jour sans fin. Pfff. À vivre comme ça, on peut faire que prendre 7 ans. Tous les 12 mois, comme un chien. Je suis déjà grand-père dans les yeux de mon fils. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Non, non, non. Je refuse. Je veux autre chose, moi. Ce monde est merveilleux. Je sais pas, je veux traverser les océans, les déserts, courir après des mirages, vivre un rêve, une histoire d'amour impossible. Être un aviateur, un inventeur, un grand artiste. Révolutionner l'art, remettre la plume à la mode, nourrir le cœur des gens. Que ma vie soit utile à quelque chose. Trouver un sens, rencontrer Dieu, quitte à en devenir fou. Mais comme dirait l'autre, je peux pas être en bonne santé dans cette société malade. Je peux pas. Je peux pas.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Tour 99.5 et nous venons d'écouter Écoutez-moi de Scylla de l'album Pleine Lune. Je suis toujours avec Mohamed du Gavroche Théâtre, ça va?
Oui, ouais, très bien, super, c'est une belle chanson.
Très belle chanson que j'ai toujours mon morceau de la nuit, comme je dors très peu, tout ça, et du coup voilà, c'est mon morceau de la nuit aujourd'hui. Il y a une phrase qui me marque beaucoup dans ce morceau, c'est comment être en bonne santé dans ce monde malade. Est-ce que au final le théâtre c'est pas de la folie complète dans le sens où c'est l'envie d'incarner d'autres gens alors qu'on a déjà soi à porter, l'envie d'incarner d'autres gens et donner du rêve, donner un instant et s'y accrocher le temps d'une pièce en fait. Mais du coup derrière comment on fait pour continuer et pour... voilà, c'est ça.
Je pense qu'après, il y a toujours une lecture hein, dans toute chose. Quand on écoute un texte, quand on écoute les mots, il y a toujours... Moi, je pense que la société a toujours été malade de tout temps. Donc voilà, il y a toujours une société, du moins. Je pense pas qu'aujourd'hui soit pire qu'hier, même si la pollution, pour moi, ouais, m'inquiète énormément. Mais il y a aussi, il y a eu quand même des progrès qui sont faits, notamment sur le recul des guerres, etc., etc. Faut le reconnaître. Une ville comme New York est moins violente que dans les années 60. C'est une réalité, même s'il y a un président qui l'est violent. Mais sinon, moi je pense, oui, que ça a toujours été... Il y a toujours cette violence dans la vie de tous les jours. Aller sur scène, c'est violent aussi. Rentrer sur scène, c'est très très violent. J'avais un ami d'ailleurs qui me disait, mais, qui avait commencé au théâtre, il me dit, mais qu'est-ce que c'est terrible de rentrer sur scène. C'est hyper violent, c'est terrible, c'est terrible. Mais enfin, il y a toujours un pas à faire, je pense, il y a toujours un risque à prendre. Il y a, par rapport à la chanson qui est dite, il y a à sortir peut-être sans forcément montrer du doigt les fonctionnaires ou je ne sais quoi. Moi, ce ne serait pas trop ma façon de dire les choses. Après, chacun a sa façon de dire les choses. Mais de prendre un risque de changer de position. Ouais. Et je pense que, pour ceux qui nous entendent, changer de position, c'est excitant aussi. Hein. Brassens disait que 95% des femmes s'emmerdent en baisant, qu'on le dise ou qu'on le confesse, c'est pas souvent qu'on leur déride les fesses. Mais je pense aussi, moi personnellement, que de changer de position, même au niveau intellectuel, même au niveau de la pensée, même au niveau du regard que l'on porte sur la vie, etc., essayer de se remettre en cause. Et la remise en cause, je pense que c'est important. C'est aussi assez, entre guillemets, je pense qu'il y a dans d'autres pays, c'est comme ça aussi. C'est aussi un des grands pouvoirs de la France, hein, cette remise en cause. La remise en cause, c'est, pour moi, c'est puissant, d'ailleurs. Hein, même si la France, par exemple, a commis des choses qui sont, qui me bouleversent toujours par rapport à l'histoire, notamment dans la guerre 40, par exemple, puis le pouvoir de Pétain. Il y a eu une remise en cause sans cesse. De tous les actes, d'ailleurs. Une sorte aussi de repentance aussi qui est bien française, aussi, etc., etc. Donc, il y a cette volonté aussi d'aller de l'avant et puis de lâcher prise et puis de voir les choses autrement et de reconnaître aussi, de reconnaître les choses. Et je pense que ça fait partie aussi de la démocratie. Je pense que ça reste important. Donc, voilà un peu ma perception des choses. Et au théâtre, il y a cette volonté, chez moi, consciente, ouais, de changer de position.
Parce que, t'obliges, toi, sur tes pièces, à changer ta propre position.
Position, oui, parce que la pensée de l'autre, la raison de l'autre est intéressante aussi. On est dans sa raison, mais la raison de l'autre est même fascinante, parce que nous, on est dans notre raison. On est même vieux des fois avec notre raisonnement ou avec notre perception des choses. Mais la raison de l'autre, surtout quand elle est notre zone d'ombre, surtout quand la raison de l'autre est quelque chose qu'on ne veut pas entendre ou qui nous fait peur, elle devient intéressante. Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière la raison aussi de l'autre, hein? Qu'est-ce qu'il y a derrière quelqu'un qu'on dirait, je vais prendre quelque chose de récurrent de la vie quotidienne, raciste, qu'est-ce qu'il y a derrière? D'où vient le fait qu'il prenne d'où vient le fait qu'il y ait toujours cette histoire du bouc émissaire, hein? De quoi il a peur? Et même si cette personne, est-ce qu'elle est étrangère chez elle, dans sa maison, dans sa famille, est-ce que lui il n'a pas été bouc émissaire aussi dans sa propre famille? C'est ça qui est intéressant, c'est cette résonance qui m'intéresse.
Chaque histoire de la vie peut être un théâtre. En fait.
Bien sûr, mais les jugements ferment les portes de la connaissance. Pour moi, la critique, oui, j'accepte bien sûr les critiques, parce que c'est les critiques qui nous font avancer. Mais pour moi, un jugement, par exemple, du style à dire « Ah ben lui, il est con, ouais, c'est un gros con, c'est une grosse merde », ça ne m'intéresse pas énormément, parce qu'en fin de compte, on ne voit pas ce qu'il y a derrière tout ça.
Voilà. Oui, c'est sûr. Et du coup, sur les planches, est-ce que tu as des sujets qui te tiennent à cœur, et on les a un peu abordés dans toute notre discussion, mais pour les bien les cerner, des sujets qui te tiennent à cœur et que tu aimes particulièrement mettre en avant, ou vraiment tu vas piocher tu sais pas trop faire.
Oui, bien sûr, mais il y en a plein qui sont récurrentes. C'est aussi social, c'est la séparation, ouais, bien sûr, parce que moi j'ai été séparé, bien sûr. et la séparation, bien sûr, me touche et je l'aborde souvent. C'est les rapports Nord-Sud que j'ai abordé souvent. D'ailleurs, là, j'ai écrit une pièce qui s'appelle « Vent du Nord ». Donc, c'est un enfant donc, qui se retrouve dans le Pas-de-Calais, dans un orphelinat chrétienne et qui s'appelle Kader. Voilà, donc, et qui préfère rester à l'orphelinat d'ailleurs que d'en sortir. Et bien sûr, je l'ai puisé aussi dans ce que j'ai vécu. Et ça m'intéresse, oui. Et j'aimerais, oui, développer dans l'avenir aussi la possibilité de faire un théâtre où les enfants jouent avec les adultes sur scène. Ce que j'ai commencé à faire dans Vent du Nord. Il y a aussi des sujets qui me touchent au théâtre qui sont. C'est la folie aussi. La folie, bien sûr, parce que je l'ai vécu aussi, la folie. Mais comme disait Shakespeare, la folie est comme le soleil, elle fait le tour du globe et elle brille partout. Et je pense, ouais, qu'elle brille partout. Après, il y a des bons fous, il y a des fous un peu plus. Qui nous ferait peur.
Il y a aussi la frontière entre réalité et fiction, ici, qui est intéressante, je trouve, au sein du théâtre. Moi, il y a un film qui m'a beaucoup marqué là-dessus, c'est Marvin ou la Belle Éducation. Je ne sais pas si tu l'as vu.
Oui.
Et du coup, j'ai beaucoup aimé cette idée que le personnage. Je ne raconterai pas le film, les gens iront voir s'ils ont envie, mais l'idée que un personnage qui fait du théâtre, en critiquant quelque chose, veut mettre en avant. Son histoire veut mettre en avant les défauts de sa famille, tout ce qu'il dégoûte, parce qu'au final, ça fait lui et qu'il est fier de lui, en fait. Et moi, c'est comme ça que j'ai vu le film. Et voilà, je trouvais que ça collait bien aussi avec notre conversation depuis le début. On prend ce qu'on a vécu, tout, n'importe quoi, on s'en fout.
Bien sûr.
Et après, on balance ça à la gueule des gens. Mais moi, je vous en ai parlé. Après,
oui.
Et je l'ai mis en avant, même si c'est le côté noir et que ça parle de moi et que c'est moi, en fait.
Oui, d'ailleurs, j'ai écrit une pièce sur ça qui s'appelle « Tu crois pas qu'on en fait trop ?» Et en fin de compte, j'ai remarqué qu'on en fait toujours trop sur scène. Puis, ou on en fait trop ou pas assez. Mais bon, bref, c'est complexe. Et donc, c'est du théâtre dans le théâtre. Et on ne sait pas si on joue ou on ne joue pas.
Oui, tout à fait.
Voilà, donc, quand est-ce qu'on joue? Quand est-ce qu'on arrête de jouer, etc., etc. C'est vaste. Et ça, c'est des thèmes que j'aime aborder, oui, bien sûr. La perte d'identité aussi, bien sûr. Et puis, on joue, oui, on joue beaucoup de choses, mais qui sommes-nous véritablement et est-ce que ce jeu, il est juste ou pas? Comme dit Socrate, qu'est-ce qui est juste? Enfin, est-ce qu'on est juste?
Le pas aussi,
comment
qui, le jeu ne prenne pas le pas sur l'ensemble qui nous entoure, quoi.
Après, il y a un risque toujours à prendre.
Ah, bah oui.
Il y a toujours un risque à prendre d'essayer d'aborder des thèmes comme ça où on joue ou on joue pas. Mais quand on s'arrête de jouer sur scène, c'est terrible. C'est terrible parce que nous, ça nous désoriente, mais ça désoriente aussi le public. Même s'il y a un texte, hein, bien sûr, c'est pas improvisé, c'est écrit. Mais c'est surprenant la rupture. Surtout qu'au départ de la pièce, je suis en train de pendre, bah oui, un nègre dans la pièce. Je suis en train de pendre. Tout d'un coup, j'arrête de le pendre. Et puis là, je lui dis, tu crois pas qu'on en fait trop? Et on se déshabille, quoi. On enlève nos costumes. Et là,
oui, c'est bon.
et le public est effrayé. Pendant 8 minutes, ils sont terrorisés. Ils se disent, mais où est-ce qu'ils vont, quoi? Mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Et là, on les a vus, quoi. Comment?
Où, quand est-ce que ça va commencer, c'est vrai.
Non, c'est surtout... Quand ça va s'arrêter? C'est tellement terrible, d'ailleurs, c'est 8 minutes. Mais est-ce que sur l'esclavagisme, est-ce que sur la pendaison qui a été faite, est-ce que même quand j'ai joué ces 8 minutes et les gens avaient l'air de dire assez, j'ai pas l'impression que c'est assez, quoi. On a toujours l'impression que...
Et ben, sur ces beaux mots, on va être obligé de s'arrêter là, parce qu'on n'est pas les seuls sur l'antenne. Je vais passer à l'agenda de la semaine, et j'ai une dernière question pour toi juste après.
D'accord.
Ce soir, à partir de 19h30, au Cinéma Les Studios, vous pouvez aller voir le ciné-concert Mélodie en noir et blanc sur l'histoire de Jeanne d'Arc en musique avec une clarinette, un violoncelle, un violon et un piano. Pour continuer un peu en mode France Culture, on va être mardi au Festival de l'Imaginaire autour de la musique syrienne ce soir-là à partir de 19h. donc un duo qui s'appelle Ustad Bolan Hossan, mardi soir à 19h. Et mercredi soir, pour finir sur une touche folk, à 19h, au bar La Petite Chose, vous aurez l'occasion de voir gratuitement le concert de Mohawk, M-O-H-A-W-K, vous le prononcez comme vous voulez. On va finir avec cette dernière question que je pose à tous mes invités. Il n'y a plus de studio, tu es dans un hangar et tu as face à nous les auditeurs, donc qu'ils soient 10 ou 1000, je ne sais pas combien vous êtes à nous écouter, j'espère 1000 plus que 10. Qu'est-ce que tu as à dire aux gens, toi? Qu'est-ce que tu as la parole et qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens qui nous écoutent?
J'ai envie de leur dire, voilà, qu'il n'y a pas de petites ou de grandes choses, comme je disais tout à l'heure, tout est immense, tout est grand. J'ai envie de leur dire aussi qu'on a mis le paradis en dehors de nous. Ça, c'est la religion judéo-chrétienne qui a fait ça. Et comme on l'a mis en dehors de nous, ici, on n'est pas au paradis. Alors, je vous dis à tous, nous sommes au paradis, nous sommes là, nous sommes présents et fraternels. Et en fin de compte, il ne faut pas mettre le paradis en dehors de nous. Il est ici, voilà.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Okay.
On se retrouve tous demain, même heure, même endroit, avec presque les mêmes personnes. Bonne soirée à tous, à demain.